Bonjour à tous. Les océans ont absorbé environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre générées par l'homme. Leur niveau pourrait augmenter de 3 mètres dans quelques années. Voici quelques lignes du rapport du GIEC rendu public ce matin. Il est alarmant, nous dira notre spécialiste environnement. Nous entendrons ensuite Donald Trump lors de son discours hier à la tribune des Nations Unies. Il a une nouvelle fois accusé la Chine de protectionnisme et de vol des technologies. Et puis avec la révolution numérique et la contrainte budgétaire, le gouvernement français veut créer un seul grand groupe audiovisuel dans le pays. Un groupe qui regrouperait notamment Radio France et France Télévisions. Les détails dans ce journal. C'est un sinistre tableau des océans et des zones glacées de la planète que va dévoiler ce matin le GIEC. Son rapport, fruit de 2 ans de travail, passe en revue les effets catastrophiques du réchauffement climatique. Jamais un travail de ce type n'avait été aussi poussé. Les experts de l'ONU notent ainsi que les océans ont absorbé près d'un tiers des gaz à effet de serre émis par l'homme et 93% de la chaleur issue du réchauffement climatique. Cela n'est évidemment pas sans conséquence, Véronique.
Le réchauffement climatique affecte lourdement les mers et les glaces. Le rapport du GIEC devrait passer en revue une longue liste d'impacts dévastateurs, à commencer par la montée du niveau de la mer. Si le monde parvenait à contenir à 2 degrés la température de la planète d'ici la fin du siècle, le niveau des océans augmenterait d'une bonne quarantaine de centimètres et du double 80 centimètres dans un monde à 3 ou 4 degrés de plus, réchauffement vers lequel nous conduisent les tendances actuelles. Acidification, désoxygénation, disparition des coraux, fonte rapide des calottes glaciaires et des pôles, le rapport du GIEC évaluera les risques dans l'avenir selon que l'on agisse avec détermination ou pas. Pour Bruno David, directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, continuer à dérégler les océans, c'est prendre de gros risques.
Il ne faut pas croire qu'on va transformer l'océan en aquarium et qu'on va gérer l'océan comme on gère finalement notre appartement ou notre jardin ou notre balcon. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc ça sera une solution si on le laisse tranquille. C'est surtout ça qu'il faut voir, parce que pour le moment, l'océan nous rend d'énormes services. Une respiration sur 2, on la doit à l'océan, à travers la fabrication de l'oxygène. Mais c'est un système qui a une inertie énorme. C'est un système qui a une inertie de 1000 ans qu'on est en train de dérégler. Les systèmes sont simplement trop complexes pour pouvoir les maîtriser. Il faut accepter notre niveau d'ignorance. La solution globale, elle est qu'on sait très bien qu'il faut émettre moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Le rapport du GIEC sur les océans et les glaces sera rendu public ce matin à 11h.
L'ONU encore et son Assemblée générale qui se poursuit à New York. Hier, Paris et Londres ont vivement espéré une rencontre entre l'Américain Donald Trump et l'Iranien Hassan Rouhani. Les conditions sont réunies, a estimé publiquement Emmanuel Macron hier. Donald Trump, lui, a préféré mettre en garde la Chine. À la tribune de l'ONU, il a vivement critiqué Pékin sur sa gestion de la crise à Hong Kong, mais aussi sur les relations commerciales que la Chine entretient. Voici Donald Trump.
Non seulement la Chine, depuis son entrée à l'OMC, n'a pas adopté les réformes promises, mais elle a pris comme modèle économique le protectionnisme des entreprises hautement subventionnées par l'État, la manipulation des monnaies, le dumping, le vol de technologies et de brevets, et ceci à très grande échelle. Mais nous voulons un système plus juste. Les États-Unis ont perdu 60 000 usines depuis que la Chine a adhéré à l'OMC. Pendant des années, on a toléré, ignoré ces abus, voire même on les a encouragés. Mais cette fois, du point de vue des États-Unis, c'est terminé.
Et pendant ce discours prononcé à New York, pendant ce temps à Washington, une procédure contre Donald Trump était lancée. La Chambre américaine des représentants va ouvrir une enquête pour impeachment, première étape en vue d'une possible destitution du président des États-Unis. La présidente démocrate de cette chambre, Nancy Pelosi, accuse Donald Trump d'avoir abusé de son pouvoir pour solliciter l'aide de l'Ukraine afin de salir le nom de son rival potentiel Joe Biden pour la campagne l'année prochaine. Le bras de fer est engagé à un peu plus d'un an de la présidentielle. Les députés chavistes sont de retour à l'Assemblée nationale au Venezuela. Ils n'y siégeaient plus depuis 2016, lorsque la Cour suprême proche du président avait jugé le Parlement en désaccato, estimant que toutes ses décisions étaient nulles et non avenues. Les voilà de retour, les chavistes, fidèles soutiens du président Nicolas Maduro. Ils se réclament, je vous le rappelle, de l'ancien président et chef d'État Hugo Chavez. Le moins qu'on puisse dire, c'est que leur première séance hier au Parlement a été particulièrement houleuse. C'est un reportage de Benjamin Delisle.
Dès leur entrée dans le palais législatif, les députés chavistes donnent le ton. « Vive Chavez, vive la patrie !» scandent-ils sous le regard parfois agacé des députés d'opposition. Avant de s'engouffrer dans l'hémicycle, remontant presque les manches à l'idée du débat qui s'annonce, les parlementaires du camp présidentiel précisent d'emblée qu'ils ne sont pas là pour offrir une quelconque légitimité au Parlement. Saúl Ortega, député de Carabobo.
Cette assemblée reste en desacato et M. Guaido est un produit de l'illégalité. Nous venons pour une discussion politique, intervenir avec notre raison, nos idées, pour exposer les points de vue du peuple du Venezuela majoritaire qui a élu Nicolas Maduro.
Mais malgré cela, les députés d'opposition estiment qu'en revenant, les chavistes reconnaissent de fait l'Assemblée nationale. C'est le cas d'Edgar Zambrano, le vice-président du Parlement libéré la semaine dernière après plus de 4 mois d'emprisonnement.
C'est un nouveau pas vers la recomposition politique dont le Venezuela a besoin. C'est une bonne chose. C'est une reconnaissance du Parlement national, du seul pouvoir légitime, élu par le peuple. Donc, ils sont les bienvenus.
Reste qu'une fois dans l'hémicycle, chaque camp s'accuse de tous les maux. Les chavistes dénoncent un coup d'État permanent de l'opposition, laquelle répond en listant les arrestations arbitraires et les exécutions extrajudiciaires. Le premier débat contradictoire en 3 ans vire donc très vite au combat de coq, d'autant que dans les tribunes, des invités de chaque tendance politique s'empressent d'applaudir ou duer chacun des discours. Quant au dialogue, tant attendu, il semble bien avoir du plomb dans l'aile.
C'était Benjamin Delisle, correspondant de RFI à Caracas pour France Culture. Le gouvernement français renonce. Il ne va finalement pas réduire une aide aux personnes âgées. Il s'agit d'une exonération fiscale accordée aux personnes âgées non dépendantes quand elles emploient une aide à domicile. Face à l'opposition politique à droite, au centre et à gauche, cette exonération est donc conservée. Le Premier ministre Édouard Philippe le disait hier dans l'hémicycle. La CGT évoque 150 000 manifestants un peu partout en France. Ils étaient à Paris 12 300 selon le cabinet Occurrence qui compte les manifestants pour un collectif de médias dont Radio France. Tous protestaient contre la future réforme des retraites. Elle prévoit de fusionner les 42 régimes en un système unique par points à partir de 2025. Toutes les entités de l'audiovisuel public seront bientôt regroupées au sein d'une même structure, une holding appelée France Média. Le ministre de la Culture le précise ce matin, notamment dans les colonnes du Figaro. Franck Riester y présente les principales mesures de son projet de loi audiovisuel qui sera discuté au Parlement en janvier prochain, et spécialement donc les mesures qui concernent le service public. Il est aujourd'hui divisé entre Radio France, France Télévisions, l'INA et France Média Monde. Ce ne sera bientôt plus le cas, Maxime Tellier.
Les esprits taquins moquent déjà un retour de l'ORTF avec président et budget unique, mais le gouvernement préfère parler de modernisation. Pour un audiovisuel public puissant, capable de remplir toutes ses missions à l'heure de la convergence des médias, Franck Riester annonce donc la création d'une holding, une société mère baptisée France Média, qui détiendra 100% du capital de ce qu'il appelle les sociétés filles, à savoir France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA. Seuls Arte et TV5 Monde échappent au regroupement, car leurs actionnaires comptent aussi des pays étrangers. Autre évolution, le président de la holding ne sera plus désigné par le CSA, mais par le conseil d'administration de cette nouvelle entité où l'État ne sera pas majoritaire. Franck Riester présente cela comme un gage d'indépendance. Quant aux patrons actuels de l'audiovisuel public, eh bien, ils deviendraient des directeurs généraux à la tête de leur filiale, mais ne seraient plus maîtres de leurs moyens financiers, car le budget sera commun et global. La nouvelle holding devra bâtir des coopérations éditoriales fortes, optimiser les moyens en mettant en commun, par exemple, la formation, l'informatique, la publicité, l'immobilier ou encore la stratégie numérique. France Média doit voir le jour le 1er janvier 2021. Et bien sûr, le plan d'économie pour l'ensemble de l'audiovisuel public n'est pas remis en cause. Il faut toujours réduire les dépenses de 190 millions d'euros d'ici 2 ans.
Au chapitre des économies encore, notons que le projet de loi de finances pour l'année 2020 doit être présenté d'ici la fin de la semaine. Ce matin, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, pourrait en détailler certaines mesures. On sait déjà, par exemple, que le gouvernement veut mettre l'accent sur un budget vert, avec entre autres l'idée de pouvoir juger les recettes et les dépenses du budget en fonction de leurs effets sur le climat et sur l'environnement. Le temps en France métropolitaine, il restera maussade ce mercredi sur une grande partie du pays avec un ciel gris et pluvieux. Encore une fois, seules les régions près de la Méditerranée resteront au sec. Ce matin, Météo France prévoit 14 degrés à Metz, 16 à Rennes, Lille, Paris, Strasbourg, 18 degrés à Bordeaux et 23 à Nice.